Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement en ce riant lundi. Et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invité, c'est le comédien Michel Boujna pour son rôle dans L'Avare. Enfin, son rôle, c'est Harpagon, c'est pas rien. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité. Et puis Marc-Antoine Lebray en toute fin d'émission. Bonjour Stéphanie Loire.
Salut Philippe Vandel.
Bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Alors Bruno, tous les jours vous observez ici les mécaniques médiatiques et vendredi soir vous avez regardé Jean-Luc Mélenchon sur la plateforme Twitch et vous êtes tombé sur une confession qui vous a semblé extrêmement intéressante pour illustrer l'évolution des relations entre les politiques et les médias.
Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre une petite phrase relayée par un grand nombre de médias et la construction de cette séquence parfaitement pilotée par Jean-Luc Mélenchon, je vous raconte. Jeudi dernier, le leader de la France insoumise participait à la manifestation organisée contre Jean-Michel Blanquer. Interrogé en direct sur BFM TV, le candidat à l'élection présidentielle a alors eu des mots très crus à l'endroit du ministre de l'Éducation.
Oh, je pense qu'un crétin pareil est utile, hein. Bon, c'est quand même... Faut laisser leur chance, hein. Faut laisser leur chance aux bons à rien. Ben oui, aussi, il y en a.
Blanquer, qualifié de crétin utile, la formule était forte et elle plut donc immédiatement beaucoup aux médias qui s'empressèrent de la relayer et de la commenter. Sur CNews, Karim Zeribi trouva le propos inacceptable.
Sur la réaction de Jean-Luc Mélenchon, moi je ne supporte pas et je ne le supporterai jamais lorsqu'un homme politique insulte un autre homme politique.
Et sur RTL, il fut également très débattu, notamment dans l'émission d'Éric Brunet qui, après l'avoir fait réentendre à ses invités...
C'est ça qu'a réussi Blanquer. Hein, il a à moitié démoli l'école, mais il a réussi à remettre tout le monde d'accord à l'école. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, bah non, je pense qu'un crétin pareil est utile. Hein.
L'heure demanda de les commenter.
Voilà, Rokhaya Diallo, un crétin pareil. Oh, oh.
Bon. Non, mais c'est pas le lieu, en fait, ni la forme pour qualifier un adversaire politique.
Voilà donc pour les faits et pour l'écho médiatique dont a bénéficié Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, Philippe, il faut que je vous explique comment et surtout pourquoi cet épisode-là a été fabriqué. Vous l'avez dit, vendredi dernier, le leader des Insoumis intervenait sur la plateforme Twitch.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Allô Mélenchon.
Il y a créé une émission, Allô Mélenchon, dont c'était vendredi le troisième épisode. Et c'est donc dans ce cadre que Jean-Luc Mélenchon s'est livré à une très intéressante confession. Interrogé sur sa présence dans la manif, il a commencé par expliquer que l'ensemble des journalistes qui couvraient l'événement avaient voulu l'interroger sur un sujet très précis.
Et alors la question c'était, alors l'Union de la gauche, ouais. Vous pouvez pas vous retrouver tous ensemble, toute la gauche, etc.
Seulement voilà, il a immédiatement précisé que ce sujet-là, l'Union de la gauche, ne l'intéressait pas politiquement, techniquement, car il n'était pas dans son intérêt.
Forcément, moi je vais à la manif de l'éducation, j'ai intérêt à repartir avec un sujet de presse qui dit que j'ai mis en cause le ministre de l'Éducation, pas que je me suis pouillé avec Hidalgo ou je ne sais pas qui.
Alors, il a expliqué qu'il connaissait la bonne technique pour détourner le regard des médias du sujet qui les préoccupe.
Donc je me suis dit, bah, très bien, je vais leur jeter une autre petite bombinette pour les occuper.
Il suffit de leur en fournir un nouveau, plus éruptif que le précédent. Et c'est ainsi que Jean-Luc Mélenchon s'est largement félicité du succès qu'avait rencontré sa formule du crétin.
Bon, alors crétin utile, ça marche, hein, par la force des choses. Et donc, il l'a parti à Mélenchon, mais en cause gravement M. Blanquer.
Et qu'il s'est félicité d'avoir réussi à manœuvrer la presse exactement comme il le souhaitait. Écoutez bien ces mots, ils sont éloquents.
Donc, je me donne le point dans l'art de torréer correctement, de manier l'assaut journalistique.
Torréer l'assaut journalistique, merveilleuse expression qui illustre un très intéressant glissement sur lequel il convient peut-être de réfléchir un moment, car il marque un temps nouveau dans l'évolution du rapport entre les politiques et les journalistes. Jusqu'ici, Jean-Luc Mélenchon s'était fait pour spécialité d'aller débusquer, pointer, challenger les manies prétendument orchestrées par les médias, parce que c'était électoralement payant dans son électorat. Eh bien, désormais, ça ne suffit plus. Il faut se renouveler et s'enorgueillir d'être capable de les manipuler soi-même. Ou la démonstration, Philippe, qu'en période d'inflation, tout augmente, tout, même les stratégies de communication.
Merci beaucoup, Bruno Donnet. À demain. Ça vous a beaucoup fait rire, Allô Mélenchon, Stéphanie Loire.
J'ai pensé à mon week-end, au fait que j'avais appelé Allô Pizza. Voilà, c'est aussi bête que ça. Je suis désolée. Pardon.
Le programme de votre indispensable ce matin, aux alentours de 10h30.
Un album de reprise de Cat Power. très doux, magnifique.
Et vous savez ce que j'ai fait ce week-end ?
Vous avez écouté ?
J'ai écouté Cat Power. Dans un instant, Michel Bougenat, on parle de L'Avare, mais d'abord Musique, le nouveau single de Julien Clerc. Il est tiré de son album Terrien. On écoute Mademoiselle sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Mademoiselle qui m'avait appris les rois de France et mon pays, les grandes cités industrielles, les montagnes, les neiges éternelles, ma reconnaissance infinie. Mademoiselle qui m'avait appris la lecture et la poésie, les jolies fables de La Fontaine, Victor Hugo et Paul Verlaine, vous avez embelli ma vie. Le son de votre voix me faisant la leçon, je l'ai gardé en moi comme une presque chanson, comme une presque chanson. Mademoiselle qui m'avait appris que la liberté a un prix pour les chiens et les papillons, pour les hommes de toutes conditions, je pense à vous dès que j'écris. Mademoiselle qui m'avait appris à ne pas confondre les cris des marchands de révolution avec le peuple pour de bon, je me dois de vous dire merci. Le son de votre voix me faisant la leçon, je l'ai gardé en moi comme une presque chanson, comme une presque chanson. Mademoiselle qui m'avait appris les rois de France et mon pays, les grandes cités industrielles, les montagnes, les neiges éternelles, ma reconnaissance infinie. Le son de votre voix me faisant la leçon, je l'ai gardé en moi comme une presque chanson, comme une presque chanson. Mademoiselle qui m'avait appris la lecture et la poésie, les jolies fables de La Fontaine, Victor Hugo et Paul Verlaine, vous avez embelli ma vie. Vous avez embelli ma vie.
Mademoiselle, c'était Julien Clerc sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Michel Bougenat.
Bonjour.
Comédien, acteur, metteur en scène, humoriste, notamment avec Ma vie rêvée ou les spectacles autour des Magnifiques qu'on vous a vu au cinéma, dans Trois hommes et un couffin, un César pour ce film, nomination au César de meilleur acteur pour Le nombril du monde, et pour la meilleure première œuvre de fiction avec Père et Fils, votre premier film avec Noiret et Charles Berling. Mais là, Michel Bougenat, quoi de neuf ?
Molière.
Évidemment, le mot magnifique de Sacha Guitry. Votre actualité, vous êtes Harpagon, vous jouez L'Avare au Théâtre des Variétés avec une mise en scène de Daniel Benoît dont on va parler. Je vais le dire une fois, je le redirai à la fin. C'est du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 17h. Vous avez démarré le 15 janvier, samedi, date qui n'a pas été choisie au hasard.
Non, puisque c'est le jour du baptême de Molière, parce que en fait, les dates de naissance, on ne les connaît pas vraiment. On suppose que c'était un ou deux jours peut-être avant, mais la date officielle de sa naissance, c'est le baptême.
Le 400e anniversaire. Qu'est-ce que cette pièce a de moderne ?
Elle parle d'un sujet qui est éternel, intemporel. Un homme vieux, malade, malheureux, veuf. Il a deux enfants, il s'en occupe pas vraiment. Il les aime, mais très mal. Cet homme, il tombe amoureux d'une femme beaucoup plus jeune que lui. Son rival en amour, c'est son fils. Et la seule chose qui le rassure, c'est l'argent. L'argent, c'est son armure, c'est son meilleur ami. C'est un homme profondément méchant et en même temps, pour moi, profondément désespéré. on pourrait raconter cette histoire aujourd'hui, comme on pourrait la raconter il y a 400 ans.
À la seule petite différence que les mariages ne sont pas arrangés, mais sinon, vous avez raison, tout peut refonctionner.
Ah, vous croyez
qu'aujourd'hui,
les mariages arrangés ont disparu complètement?
Non, quand même pas, mais on n'a pas besoin de demander l'autorisation de son père une fois qu'on est majeur pour savoir si on peut se marier. Il y a quand même un contexte historique, à 10% près, je souscris absolument à ce que vous venez de dire.
Non, je suis d'accord sur
le fait que c'est totalement actuel.
Qu'il ne faut pas l'autorisation des parents pour se marier, mais je crois, hélas, qu'il y a encore des magouilles sur des mariages arrangés, sur... C'est pas si vieux que ça, cet aspect-là. Mais l'autorité du père de vie et de mort sur les enfants, évidemment, ça a changé.
Là-dessus, on est bien d'accord. Vous l'avez dit un tout petit peu. Comment vous l'avez abordé, cet harpagon? Comment vous l'avez fait?
La première fois, quand Daniel Benoît me l'a proposé, j'ai dit non.
Bon, c'est bien.
Après, comme
pourquoi c'est intéressant. Pourquoi vous avez dit non?
Parce que j'ai dit, vous êtes fous. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi seul sur scène, je suis très bien. Partout, un peu.
Vous avez dit non à une pièce, vous avez dit non à une pièce de Molière, vous avez dit non à ce rôle-là dans l'Avare.
J'ai dit non à cette aventure globalement. Voilà. Et puis, comme c'était une période où j'allais pas bien, j'ai réfléchi toute la nuit et j'ai dit, je suis bête, moi. Je l'ai rappelé le lendemain, j'ai dit, finalement, je suis idiot, je suis d'accord. Après, j'ai relu la pièce que j'avais pas relue. Et là, j'ai dit, mon Dieu, quelle connerie je viens de faire. C'est monumental. C'est l'Himalaya. Ça fait partie des 20-25 grands rôles du répertoire. Il n'y a que de grands acteurs qui ont joué ça. Mais qu'est-ce que je vais me lancer là-dedans? Je suis complètement fou. Et puis, on a commencé à travailler. Et sur une des lectures, il y a une phrase qui m'a sauvé. C'est « De tous les humains, c'est le moins humain ». Ça veut dire qu'il n'est pas inhumain. Ça veut dire qu'il y a encore chez lui une parcelle d'humanité. Et s'il a une percelle d'humanité, alors moi, je peux peut-être le jouer, parce que c'est peut-être un des objets de travail depuis toujours sur mon boulot personnel. Donc, et puis, Daniel Benoît me l'a proposé parce qu'il avait pensé ça lui aussi.
Et on entend cette parcelle d'humanité dans le fameux monologue de la cassette. On connaît évidemment le numéro de bravoure, parce que c'est dans un film de Louis de Funès. On ne pouvait pas passer les 3 minutes. On a choisi le milieu parce que je voulais qu'on entende sur scène, même si c'est une captation, même si c'est un document de travail, je voulais qu'on vous entende sur scène dans ce rôle d'Harpagon.
Je suis perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Hein? Ici. Arrête! Arrête! Oh! Oh! Ah! Ah! Ah!
Évidemment, plus ça va, plus il s'énerve. Mais au départ, c'est tout doux. J'ai choisi exprès le milieu pour qu'on voit bien la palette. Vous ne jouez pas comme un hystérique, comme le jouent beaucoup de comédiens. Et c'est pas leur faire injure que de dire ça. C'est pas péjoratif dans mon
oui,
mot hystérique.
Mais
vous l'avez joué avec humanité.
Oui, il est presque comme un enfant à qui on a volé la chose la plus importante de sa vie. Il est détruit. Il est détruit. Mais il faut bien comprendre une chose sur cette scène-là. C'est que juste avant, il découvre que c'est son fils, son rival en amour. La scène se termine sur « Je te déshérite, je te donne ma malédiction, je te renonce pour mon fils. Je t'interdis de me jamais voir. » Il est détruit. Il est détruit parce que quand son fils lui avoue, la scène, c'est un chef-d'œuvre. La deuxième scène de l'acte 4, la confrontation entre le fils et le père, pour moi, c'est une des plus belles choses que j'ai lu, et j'ai une chance immense de jouer ça, d'ailleurs avec Antonin Chalon, qui est formidable dans le rôle. Et tout d'un coup, juste après ça, qu'est-ce qu'il découvre? Qu'on lui a volé son argent. C'est-à-dire, c'est coup sur coup. Donc, il est détruit. Et après ça, qu'est-ce qu'il va découvrir? C'est que sa fille, elle couche avec le seul mec en qui il a confiance, et ce type-là, il pense que c'est lui qui lui a volé son argent. C'est-à-dire, il perd tout.
Et nous, qu'est-ce qu'on va découvrir sur Michel Boujna? C'est pas moi qui vais le dire, c'est Lisa Marie Marquez. C'est le portrait pré-fame. Culture Média continue.
11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du comédien Michel Bougenat. On parle de sa pièce L'Avare, mais pas seulement, on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquès, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Michel Bougenat.
Bonjour.
Vous avez plus de 40 ans de carrière à votre actif, au théâtre, seul en scène, au cinéma, derrière la caméra. Vous êtes aussi un acteur césarisé. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Michel Bougenat, vous êtes né à Tunis, c'est là que vous passez votre enfance. Vous êtes le troisième enfant de la famille, celui qu'on appelle le puiné. Enfant solitaire, durant l'enfance, Michel Bougenat, vous tombez régulièrement malade pour que votre papa, médecin, vous soigne, pour le voir aussi. Lorsque vous avez une maladie dans le sang qui nécessite une piqûre tous les jours, vous ne supportez pas que ce soit quelqu'un d'autre que votre père qui vous administre ces piqûres.
Je ne savais pas cette histoire, vous faisiez semblant d'être malade.
Non, non, je ne faisais pas semblant. Je tombais vraiment malade parce que mon père était médecin.
Ah, donc c'est l'inconscient alors.
Oui, ouais. Le jour où j'ai compris ça, j'ai commencé à être un peu moins malade.
Une fois par semaine, vous passez un moment en tête-à-tête avec votre maman, vous allez au cinéma, des moments très fondateurs de votre enfance. Il y a aussi le tennis qui vous passionne, vous habitez juste à côté d'un terrain. Et puis à Tunis, vous vivez au bord de la mer, vous aimez pêcher, il vous arrive de partir sur un petit bateau seul, c'est votre paradis. Mais à l'âge de 11 ans, Michel Bougenat, vous apprenez que vous allez quitter la Tunisie avec votre famille. Avant de partir avec votre tire-boulette, votre lance-pierre, vous visez les vitrines dans la rue où vous habitez en colère du déracinement à venir.
Toutes les vitres.
C'est pas vrai, ouais. Vous avez tout pété.
Et après, je me suis caché dans la voiture. Et j'ai attendu qu'on s'en aille. Je me suis caché d'abord parce que je voulais pas qu'on m'attrape. Et je me suis caché parce que j'avais peur qu'on m'oublie. D'abord, quand je me suis levé le matin, j'ai été sentir l'odeur de la peinture bleue. Vous savez, cette peinture bleue qu'il y a en Tunisie. Je garde cette peinture chez moi, dans le sud de la France. J'ai des sachets de poudre de cette peinture. Et de temps en temps, je peins un bout de bois et je sens l'odeur de la peinture. Ça me fait du bien.
Incroyable.
Oui, je suis cinglé.
Toute votre famille s'installe près de Paris, mais vous avez quitté vos meilleurs amis, vous avez quitté la mer. Et c'est tellement rude pour l'enfant de 11 ans que vous êtes que vous en perdez l'appétit. Michel Bougenat, vous ne mangez plus.
Ouais.
Et je tombe malade.
Et vous tombez malade.
Il ne veut pas parler de ça, on a l'impression qu'il en souffre comme si c'était présent, mais c'est incroyable. Vous avez changé de tête à cette évocation, Michel Bougenat.
Oui, parce que je ne me retourne pas rarement dans le passé, j'ai oublié, moi. Je suis toujours en me disant que c'est devant qu'il faut regarder.
Ah bah là, pas de bol, c'est derrière.
Votre destin d'artiste se dessine lorsque vous entrez à l'école alsacienne à Paris et que vous réalisez en cours de français un exposé. Vous choisissez de raconter Le dernier des justes d'André Schwarzbart et vous bouleversez tout le monde, vous compris, parce que vous rendez compte à ce moment-là qu'avec la parole, vous arrivez à transmettre vos émotions, à exister. Vous commencez alors à prendre des cours de théâtre. Après le bac, au départ, vous vous destinez à devenir médecin comme votre papa et votre frère et à faire du théâtre amateur à côté. Mais vous présentez finalement le concours du conservatoire de Strasbourg avec le personnage de Sganarelle dans Don Juan. Vous êtes reçu à la première sélection, mais pas à la seconde à cause de votre accent et aussi parce que vous avez une telle envie de faire ce métier que vous leur semblez un peu hystérique. Là, votre monde s'écroule. Vous pensez que vous ne serez pas acteur.
Vraiment ? Vous étiez recalé pour l'accent tunisien ?
Oui, et ils m'ont dit si vous voulez faire ce métier, soyez metteur en scène. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs.
Ouais.
J'ai commencé par être metteur en scène. Je ne suis monté sur scène que le jour où il y a un des acteurs de la troupe qui avait réussi le conservatoire et donc qui est parti et je l'ai remplacé. Et tout le monde m'a dit, mais tu joues bien.
Et vous avez aussi perdu l'accent, si c'est la question.
C'est-à-dire que c'est très étrange l'accent, parce que quand je joue l'avare, par exemple, je n'ai pas l'accent.
Pas du tout.
Mais parce que la langue de Molière l'enlève, l'accent, naturellement. Je ne cherche pas à l'enlever, vous savez. C'est naturel. Et quand je joue mes propres textes, et ben j'ai mon accent, c'est normal, c'est ma langue.
Ah bah évidemment.
Vous montez finalement une troupe de théâtre à 19 ans avec des copains pour faire ce métier. La compagnie s'appelle la Compagnie de la Grande Cuillère. En parallèle, pendant 8 ans, vous travaillez au contact d'enfants handicapés. Votre premier one-man show, c'est lorsque vous décidez de jouer devant eux pour leur montrer comment vous les voyez, vous les jouez un par un. Et ça déclenche en vous l'idée d'écrire un spectacle sur les racines, l'histoire d'un immigré juif tunisien débarqué en France. Pour monter sur scène, vous louez le théâtre de la Lucernaire pour 15 jours en empruntant de l'argent à vos copains, et vous faites bien de vous lancer. Le succès est au rendez-vous. Vous vous retrouvez aux 20h de Léon Zitrone. On écoute.
Au café-théâtre du Cernaire, la compagnie de La Grande Cuillère a monté Albert, interprété par Michel Boudjena. Un drôle de garçon qui joue à la fois tous les personnages de la saga juive de Tunisie. En cette période de tensions internationales, Albert nous remet en mémoire nos différences. Accepter les différences, savoir que les autres ne partagent pas forcément les mêmes rêves que vous.
Extraordinaire, on est en quelle année? J'avais jamais entendu ce document.
Je sais plus, que bon. 79, 80, un truc comme ça.
Je crois, j'ai plus l'année exacte.
Mais c'est une histoire incroyable, vous savez. Je sais qu'on n'a pas le temps de parler, mais comment je me suis retrouvé au journal de Léon Zitrone, c'est à mourir de rire.
C'est vrai?
Bah
vous,
oui, c'est un...
Vous me le raconterez après, vous savez quoi? Si on va voulez. Le raconter. Oui, oui. On laisse Lisa Marie, mais je veux connaître, savoir ça. Je veux savoir ça, pardon,
Michel,
j'avais pu faire une phrase correcte.
Il vous appelle Michel Boudjena, Michel Boudjena, donc oui. Vous démarrez sur les planches avant que le cinéma ne vous fasse de l'œil. Votre grande aventure avec le public ne fait que commencer. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là.
Merci beaucoup, Lisa Marie. L'émission continue. On vous retrouve demain. Michel Boudjena vous retrouve dans quelques instants. Et moi, je veux savoir comment s'est faite la jonction entre Michel Boudjena et Léon Zitrone. C'est juste après ça.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Michel Boudjena, il est Harpagon, c'est la pièce L'Avare, évidemment, c'est au Théâtre des Variétés du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 17h. Et ça marche très, très bien.
Croisons les doigts. Faut jamais dire ça.
Ah, je savais pas.
Moi, j'ai du mal à pas. Moi, je demande jamais ni les chiffres ni les machins. Je joue. Je suis tellement superstitieux que parce que le plus beau mot de la langue française, c'est complet. Hein.
Je savais pas que c'était celui-là, mais je vois très très bien. Qu'est-ce que je veux dire? On parlait avec Lisa Marie Marquez de la manière dont vous êtes retrouvée dans le journal. C'était pas TF1, c'était la première chaîne de Léon Zitrone dans les années 70 pour votre premier spectacle. Comment ça s'est fait la connexion?
Eh bien, c'était la numéro 2.
La 2.
Enfin, France 2, pardon. Je peux. Non, Antenne 2 à l'époque. Antenne 2.
D'accord, Antenne 2.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a un dentiste, un juste tunisien, qui est venu vous voir au bout de 3-4 jours. Un copain d'un copain d'un copain. C'est comme ça que ça a démarré. Le théâtre, il faisait ça en place. Ce gars-là, il soignait un journaliste de la chaîne, qui s'appelle Michel Halal, et il lui dit, je te soigne là-dedans, mais pas complètement. Parce que je vais te dire d'aller voir un type là au Lucernaire, un jeune mec. Si tu y vas pas, je te soigne plus. Et je te soigne pas cette dent. Et donc, dans 4 jours, tu auras très mal. Et il n'y a que moi qui peux te soigner. Le petit dit, mais t'es fou, quoi. Il dit, oui, parce que je sais que si je te dis d'y aller, tu vas pas y aller, parce que tu vas dire, vas-y, tu es obligé d'y aller. Le Michel Halal en question, il y va. Il adore le spectacle. Il va voir sa rédactrice en chef et qui lui dit, écoute, vraiment, sauve, parce que pour la convaincre, sauve-moi mes dents. Parce que si j'arrive pas à te convaincre d'aller le voir, l'autre, il va pas me soigner. Et Betty Duro, qui à l'époque dirigeait, était rédactrice en chef du journal de 20h, est venue voir le spectacle et elle a dit, il faut faire un sujet sur ce spectacle-là. Est-ce que il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, il y a 3 chaînes de télévision. Canal n'existe pas. Que le journal de 20h de Léon Zitrone, il fait entre 15 et 20 millions de spectateurs tous les jours. Je joue dans un théâtre de 100 places. Est-ce que, cher ami, vous imaginez l'impact de ce reportage?
C'est impensable aujourd'hui.
C'était délirant. Évidemment, tout le monde me disait, change de théâtre, il faut que tu ailles là, il faut que tu sois plus grand. Et moi, j'avais tellement peur que je ne voulais pas. J'étais tellement content. C'était la première fois de ma vie qu'il y avait autant de monde dans la salle. Et 100 places, c'était... C'était pour moi, 100 places, complet. Qu'est-ce que c'était beau.
Quelle anecdote, ma carrière pour une carie. Alors, je vais revenir au Théâtre des Variétés, L'Avare. Un mot de la mise en scène de Daniel Benoît et du décor de Jean-Pierre Laporte. Je dois dire, c'est absolument somptueux et grandiose. Ce n'est pas une pièce de théâtre minimaliste.
Ah non, 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 non. Le décor est incroyable, les lumières sont incroyables, il y a la neige. C'est très beau, c'est vraiment très beau. Et Daniel... Franchement, Daniel est un metteur en scène magnifique avec Molière. Magnifique. Et c'est un grand bonheur. Et c'est une association entre un théâtre public et un théâtre privé, hein, l'aventure de l'Avare. Ça aussi, c'est très bien.
Tiens, justement, il était dans le privé, maintenant dans le public. Vous faites partie des personnes qui militent pour l'entrée de Molière au Panthéon?
Non.
Pour quelle raison?
J'adore Francis Huster. Hein.
Ouais. Bon. Francis Huster, il a dit... Si Molière n'entre pas au Panthéon, j'arrête de faire l'acteur.
Mais non, il continuera à faire l'acteur, c'est toute sa vie. Même si Molière ne rentre pas au Panthéon. Mais franchement, Molière, il a la Comédie française à lui tout seul. C'est sa maison. Alors que c'est Napoléon qui crée la Comédie française. Molière, il est mort depuis longtemps. D'abord, on ne sait pas où est son corps. Mmh. Et quelle importance. Il est joué dans le monde entier. On dit la langue de Molière quand on parle de langue française. Ça va. Je veux dire, il y a peut-être d'autres gens qui peuvent rentrer au Panthéon à qui on doit rendre hommage. Molière, on lui rend hommage tout le temps, toute l'année, tous les jours, et cette année encore plus.
L'Élysée a fait savoir que Molière n'entrerait pas au Panthéon avec cette explication. Oui. C'est que le Panthéon est un temple laïque et toutes les figures panthéonisées sont en fait postérieures aux Lumières et à la Révolution, ce qui n'est pas le cas de Molière. Samedi soir, Francis Huster, parce que vous en parlez, il était l'invité de Laurent Ruquier dans l'émission En étant direct, vous avez vu ou pas ?
Il paraît qu'ils se sont charclés.
Oui, avec Franck Ferrand. Ferrand assure que les pièces de Molière ne sont pas signées Molière, mais Corneille. Ils se sont charclés, comme dit Boujna, au point que Huster s'est mis debout.
Il est le fondateur du théâtre tel que nous l'aimons. Il est un grand chef de troupe, il est un metteur en scène incroyable, qu'il était un comédien génial, qu'avec simplement le jeu de ses sourcils, il était capable de faire éclater une salle de rire.
Mais il n'était pas écrivain.
Je vais te tuer,
C'est-à-dire que dès l'instant que t'es un comédien, c'est exactement le discours comme à Hollywood, non. Face à Charlie Chaplin. Thèse, je vais finir.
Et je vais pas commencer à
le faire.
Attends, il n'a pas fini.
Je vous le dis, cette thèse de Corneille, c'est Pierre-Louis qui a lancé comme une plaisanterie que Corneille aurait écrit du Molière.
Alors,
c'est
absolument... Oula. Allez, Ferrand.
C'est Pierre-Louis. Moi, je ne les connais pas.
Je vais le tuer.
C'est Pierre-Louis.
C'est pas possible.
Ça vous fait marrer.
On dirait un mec de chez moi.
Ouais, je vais le tuer.
On dirait Victor Boutboul. Je vais te tuer. C'est délirant. Mais il y a un autre grand historien... de Molière qui ne soutient pas du tout la thèse de Corneille. Hein. Franchement, quand on joue Molière, et pour moi il s'agit bien de Molière, je pense que c'est impossible que ce soit une autre personne qui ait écrit ça.
Il faut le dire par exemple pour l'avare, Molière s'était attribué le rôle d'Harpagon.
Oui, mais c'était un diable à quatre têtes. C'est ça qu'on dit de lui quand il est sur scène. C'est un acteur de génie, formé par les Italiens. Il improvise tout le temps. Il se copie lui-même. Il fait sa salade. Je ne vois pas du tout un auteur comme Corneille faire ce travail-là. Alors, il y avait une communauté d'auteurs. Comme aujourd'hui, on se parle. Moi, par exemple, avec Pascal Elbé, on se parle de nos sujets, on se donne des idées. Mais en aucun cas, j'irai écrire un film de Pascal Elbé ou l'inverse. On peut travailler ensemble, mais... Non, il ne faut pas déconner. Voilà. Enfin, moi, je ne crois pas à la théorie de Corneille. En tout cas, pas du tout.
En tout cas, Francis Huster n'ira pas vous tuer. Ça tombe très bien, on a besoin de vous.
Non, mais il ne tuera pas Ferrand non plus. et il continuera à jouer.
Ah, ça vous êtes sûr, vous le pariez. Il continuera à jouer.
Mais bien sûr.
Juré, ça fait 4 ans qu'il le joue.
Oui, c'est un acteur magnifique. Et je l'adore.
On prend le pari. Vous êtes parieur ?
Oh oui.
On prend le pari. On va parler de musique avec Cat Power. Stéphanie Loire est dans ce studio. On marque une courte pause. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Michel Boujna, l'Avare, c'est au Théâtre des Variétés. C'est du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 17h. Stéphanie Loire est dans ce studio. Je retrouve
Bonjour.
Plus la feuille que j'avais. Oui, ce matin, je l'ai un petit peu annoncé. Vous écoutez beaucoup de musique, Michel Boujna, vous avez le temps
oui,
en ce moment ?
Oui, beaucoup. Beaucoup. Dans la voiture, sur la route, à la maison, aussi quand j'écris. J'adore. Et puis je me fais des exercices avec la musique. Je mets au hasard, je laisse une radio, par exemple, et j'essaye d'écrire en fonction de la musique que j'écoute.
Pas mal, ça comme jeu, hein.
D'accord.
Il y a des choses drôles, des choses dramatiques, des films de KPDP.
Tout dépend de la radio que vous écoutez.
Exact, ouais. Oui, évidemment. Parce que quand j'écoute Philippe Vandel...
Si vous êtes sur RFM ou si vous êtes sur Radio Notre-Dame, ça change.
Ce ne sera pas le même film, ouais. Non.
Ouais. Stéphanie Loire, ce matin,
oui.
Vous nous parlez d'un nouvel album de reprise de la chanteuse compositrice, mais là, ce sont des reprises, Cat Power.
Exactement, parce que je vous sens un petit peu stressés tous les deux. Il y a de la tension qui flotte dans ce studio.
Oh,
pareil pour nos auditeurs. Je vois que vous avez les mains crispées sur le volant du Multipla ou de la Fuego. On va se détendre avec la musique, le talent et la douceur de Cat Power. Ah, Bientôt 50 ans, Cat Power publie Covers, un nouvel album de reprise qui rend hommage à Iggy Pop, à Frank Ocean, à Nick Cave, à Lana Del Rey, aux Pogs. Un exercice qu'elle apprécie, la reprise, c'est son troisième du genre après The Covers Record en 2000 et Jukebox en 2008. Un style qu'il réussit puisque les deux précédents ont eu beaucoup de succès. Excusez-moi, je suis en train de perdre mon masque comme une chaussette qui descend, c'est très désagréable.
Vous êtes très belle.
Merci. Cat Power parvient une fois de plus à réinventer des titres d'artistes emblématiques parmi ceux qu'elle a choisi cette fois-ci, White Mustang de Lana Del Rey.
Tu connais Michel Cat Power ou pas?
Alors la bonne nouvelle, c'est aussi que Cat Power, elle aurait semble-t-il surmonté ses démons de la décennie 2000-2010, la dépression, l'addiction à l'alcool, les relations toxiques, pour revenir en forme et apaisée. Avec cet album, elle ne se contente pas de chanter les chansons des autres, elle les amène ailleurs. Les nouveaux morceaux ressortent différents, si différents qu'on en oublie presque que ce sont des reprises. Et même les oreilles affûtées et les champions, toutes catégories du blind test comme vous, Philippe, ceux qui sauront reconnaître facilement les originaux derrière ces versions, eh bien, vous aurez tout de même envie d'écouter ces chansons pour en profiter tout simplement. Vous êtes bon blind test, Michel ?
Non, je suis nul.
Bon, très bien.
Nul, super nul.
Ça tombe bien, j'ai pas prévu d'en faire un.
Merci.
Il y a par exemple une version ralentie du I Had a Dream Joe de Nick Cave et ses Bad Seeds. Alors eux, ils l'avaient chargé d'électricité. Là, pour vous mesurer l'ampleur de la réinterprétation, on écoute un extrait de l'original par Nick Cave. Et alors, dans la version Cat Power, changement total d'ambiance, on se contentera d'un piano lancinant, du martèlement de la batterie et de la voix de Cat Power envoûtante. Covers, on découvre aussi une reprise d'un titre du groupe irlandais, les Pogs, A Pair of Brown Eyes. La voix est cette fois juste accompagnée d'un orgue. Et alors ça sonne d'une pureté, mais d'une pureté presque aussi pure que l'âme de Michel Boujna. J'ai bien dit presque.
Oh.
Alors, on y entend aussi une version dans cet album totalement neuve du titre Bad Religion, publié par Frank Ocean en 2012. C'est le titre qui ouvre l'album avec ses quelques notes de guitare qui sortent, alors d'on ne sait où, avec un gimmick qui tourne en boucle et qui finit par hanter nos oreilles. Cat Power, ça vous fait vibrer un peu, Michel ?
J'adore. Cat Power, j'adore Alicia Keys aussi.
Ah ouais, ouais c'est bon, on est dans des voix de qualité, on peut le dire, clairement. Parmi les versions les moins revisitées de cet album, il y a cette très belle reprise de I'll Be Seeing You de Billie Holiday, dédiée à son ami Philippe Sdar, musicien producteur français, moitié du duo Electro Cassius, disparu en juin 2019. On écoute. I'll be seeing you. Ça détend. Hein.
Ça, c'est le dernier appel quand les gens ne veulent pas quitter la salle. Ce qui amène ma dernière question, est-ce qu'il y aura des concerts prévus?
Oui, Kate Power, elle reprend le chemin des salles. Elle sera en concert en France à partir du printemps et notamment Salle Playel à Paris le 29 mai.
Mais elle va faire des reprises ou ses morceaux à elle ou un mélange des deux? Qu'est-ce qu'on sait des concerts?
Ce qu'on sait, on sait qu'elle va interpréter ces titres-là et probablement d'autres reprises, dont celle de Rihanna, mais il y aura aussi des classiques de Kate
D'accord,
Power.
Merci beaucoup. Ça s'appelle le nom de l'album
Covers, tout simplement.
Covers, qui veut dire reprise en anglais. Michel Bougenat, restez avec nous.
C'était magnifique.
Oh, merci
Dommage
Michel.
Qu'elle s'en aille.
Ouais,
c'est franchement, pas... je préfère quand elle
quand
est là.
Elle,
quand elle est pas
c'est
là.
Quoi, moi je vais me barrer.
Oui.
Bonne émission. Salut Michel Bougenat, restez avec nous. Culture Média continue.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Michel Bougenat, qui joue l'avare au Théâtre des Variétés, du mercredi au samedi à 20h30, la matinée, c'est le dimanche, comme son nom ne l'indique pas. C'est à 17h. À quoi vous pensez quand vous êtes sur scène, Michel Bougenat?
À ce que je ressens.
Ah oui?
Oui.
Vous n'avez pas dit ça à Paris-Normandie? J'ai retrouvé une interview de vous.
Oui.
Paris-Normandie, en 2019, vous pose la question. Normalement, les acteurs, ils disent « je pense à mon texte, je pense à ce que je me ressens », pas vous. Vous avez fait une confidence et dit « je regarde les gens dans la salle et j'imagine leur vie ». Ces deux-là, par exemple, est-ce qu'ils sortent ensemble pour la première fois? Pourquoi ils sont venus? Est-ce qu'ils espèrent se la taper?
Ah oui, mais ça, c'est dans mes spectacles à moi.
Ah,
quand vous... je suis tout seul.
Ah, ça change.
Mais là, je donne la réplique à d'autres acteurs. Je ne suis pas tout seul.
D'accord.
J'ai intérêt...
À être focus.
À être hyper concentré. Alors peut-être que quand j'aurais joué l'avare, je sais pas, une centaine de fois, je pourrais peut-être aussi... mais il faut surtout pas que j'aille dans cette direction. Je suis pas là pour servir Michel Bougenat, je suis là pour servir Molière. Et si vous servez pas Molière, comme je dis souvent, Molière vous tue. Il est trop fort. Jouez pas avec ça. C'est comme dans une équipe de sport.
Ouais.
Si le mec joue que pour lui et pas pour l'équipe, il est mort. Si c'est un grand joueur.
Je souris parce qu'il y en a encore beaucoup qui n'ont toujours pas compris ça. Il y en a encore beaucoup qui jouent sur le terrain pour eux-mêmes. Vos projets, il y a tellement, tellement de projets. Je ne sais même pas si on aura le temps en deux minutes de raconter tout ce que vous faites en ce moment.
J'ai créé les Adieux des Magnifiques avant de la reprise de l'avare parce que j'avais signé à cause du Covid. En fait, c'était le bordel. Ouais. Donc après, je vais m'occuper des Adieux des Magnifiques en 2023. Je suis en train de finir d'écrire mon quatrième film qui s'appelle Si j'étais pauvre.
Aucun rapport avec l'avare?
Non, bizarrement non. Non, c'est l'histoire d'un homme qui fait semblant d'être pauvre pour renouer le lien avec son fils. Et comme il vient d'une famille très très pauvre, il est obligé de prendre le costume de son père pour retrouver son fils. Mais c'est un homme qui a réussi à la force du poignet.
Et il y a aussi une série télé.
Et il y a une série sur laquelle je travaille avec Radu Milanaou. Mais ça, je peux pas en dire plus. D'abord
c'est
parce
pas
que...
la série franco-québécoise. Moi, j'ai lu ça.
Ah
quand même.
Oui, non.
Ah, c'est encore une autre série. Mais
oui,
combien
oui.
de choses il a
Ah oui. Et il y a une série qui m'amuse énormément à faire, qui est franco-québécoise, effectivement, où c'est deux mecs qui ont chacun une fille.
Ouais.
Et ils sont tous les deux seuls dans la vie. Il y a un Québécois et un Français. Le Français va rejoindre sa fille qui fait ses études à Montréal. Et ils sont sûrs qu'elles sont en danger. Donc, il leur mène une vie, mais pas d'enfer. Il les espionne. Il frappe les types qui les approchent. Elles n'en peuvent plus. Et elle leur dit, mais bordel de merde, vous n'avez pas une vie?
Non.
Vous ne pouvez pas aller faire ce que vous voulez? Et ils les suivent, ils se déguisent.
C'est bien, on verra ça quand et où
ils sont en train de l'écrire. J'étais à Montréal il n'y a pas longtemps. C'est en train de se faire. C'est très amusant. Et mon partenaire est un humoriste québécois que j'adore, qui n'est pas connu en France, mais au Québec, c'est une immense vedette, qui s'appelle Michel Barrette, qui est à mourir de rire et qui... Je suis mutique à côté de lui.
D'accord.
Donc quand on viendra parler de ça ici, prenez un Valium.
Tout de suite, je prends l'invitation. Michel Barrette, vous êtes invité. Ramatuel, le festival, il aura lieu? Je sais que oui. 10h54, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray. Comme tous les jours, des célébrités viennent voir notre invité Michel Bougenat.
Mais la vraie célébrité, c'est Marc-Antoine Lebray. Enfin, vous déconnez ou quoi?
Et ce matin, c'est un grand fan de Molière. C'est un grand fan de Molière qui tenait à passer vous voir...
T'inquiète pas Michel, c'est Fabrice Lucchini, avoue qu'en entendant fan de Molière, t'as eu peur de voir débarquer Francis Huster. Ah les boules! Déjà qu'on doit se taper Vandel! 400 ans que Molière nous a quittés Michel, 400 ans c'est quoi? Une première dame, l'intégrale de Vivement Dimanche, la durée entre deux rapports de Vandel. Même après 400 ans, Molière n'a jamais été aussi présent dans notre société, la preuve, écoutez...
Bonjour à tous, c'est Michel Simès. Alors c'est vrai que Molière est toujours très actuel et qu'il touche énormément les Michel. Michel Bougenat est le malade imaginaire et moi, grâce à la petite grippette qu'on se tape depuis 2 ans, je suis devenu le médecin imaginaire. Ah, je crois qu'on a des ballons qui veulent intervenir, Michel.
Allô, tatan, c'est pas des ballons, c'est Nabila. Ouais, c'était juste pour dire que je crois que je pourrais trop jouer dans les femmes savantes. Parce que je savais trop de trucs, t'as vu, tous mes amis me disent toujours « Nabila, t'es trop intelligente ». Bon, en même temps, tous mes amis sont de la télé-réalité, donc ils savent de quoi ils parlent.
Salut tout le monde, c'est Cyril Lignac. Hé hey Michel et Philippe, vous venez manger quand vous voulez à la maison, mais sans Philippe. Comme ça, on pourra se faire un remake du festin de Pierre. Et en plus, j'ai inventé une recette spéciale Molière. Ça s'appelle la tartuflette. La tartuflette gourmand croquant.
Salut, c'est Bruel. C'est juste pour dire que c'est hyper important de bien manier la langue de Molière. Et de manier aussi la langue de Gladys, les fesses de Cindy, les cuisses de Céline, le bassin de Sophie.
Putain, Michel, tu sais que j'adore Jean-Baptiste Poquelin. D'ailleurs, tu connais le dicton « molle hier, mais dur demain », tu vois ? Promis, ce matin, je ne dirai rien sur les malades imaginaires de la Covid. Je resterai avare en provocation, mais il y a quand même des tartuffes dans cette histoire.
On a compris, Jean-Marie. Alors tu vois, mon Bougenat, mon boubou Molière est toujours là parmi nous. Il n'est pas mort, il est même bien vivant. Et je suis même sûr qu'il a déjà réservé une place pour venir te voir au théâtre.
Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray. Merci à tous. Merci, Michel Bougenat.
Je vous en prie, c'est un plaisir.
L'Avare, les variétés, mercredi, samedi, 20h30, dimanche, 17h. Et moi, j'attends... Quel nom, Michel Barrette, pour qu'on parle de cette série. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média avec Samuel Le Billon. Il incarne Alex Hugo, une série qui cartonne depuis 7 saisons. Si ça cartonne pas, c'est pas là pour une saison supplémentaire. Donc, c'est dire si ça marche. Et puis, l'humoriste Nora Hamzaoui, on parle de son nouveau spectacle, le titre extrêmement original. Ça va vous intéresser. Il s'appelle Nouveau Spectacle. Juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous. Oui. Le programme.
Alors, vous avez bien bonjour. La chance d'avoir Julia Vignali.
Oh, merci.
Et Mélanie Gomez aussi, on n'a pas de chance. Si, on a de la chance.
Bah oui, merci beaucoup Michel, on va venir vous voir dans la VAR. Pour en parler de notre sujet, nous recevrons le psychiatre et écrivain Christophe André. Le sujet, c'est pourquoi ça sert de consoler, de se consoler et de consoler les gens qui nous entourent.
Bon, et puis dans le dossier santé du jour, on va décrypter un phénomène sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu ça, des vidéos d'influenceurs qui se taillent les dents comme des dents de requin pour se faire poser des facettes en Turquie notamment ou dans d'autres pays. Eh bien, c'est très dangereux parce qu'en plus, ce n'est même pas des vraies facettes qu'on leur pose. Et en plus, ils peuvent finir avec un dentier à 30 ans. Donc, on va décrypter tout ça et puis donner les bonnes indications pour les facettes dentaires, justement.
Mais c'est autre chose que le dentiste de Michel Bougenat. Écoutez l'anecdote. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Salut, à demain.